Vous écoutez, on lit pour vous.
Faire barrage à la haine. Un texte de Salomé Corbeau, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir. Chaque printemps, je ressens une immense joie à voir le lilas fleurir et le framboisier effronté repartir à la conquête de mon petit lopin de terre urbain. J'enfile alors mes vêtements les plus élimés, je ressors une affreuse casquette et je plonge mes mains dans la terre. Cette année encore, dès qu'il a fait beau, j'ai accompli mon rituel. Retourner la terre, ajouter du compost et des fertilisants naturels, arracher les mauvaises herbes, semer les légumes en feuilles, diviser les vivaces pour les repiquer ailleurs, ce sont autant de gestes qui me font du bien à l'esprit en me sortant de mon hibernation mentale. Le bruit des vélos auxquels on a ajouté de petites roues et les encouragements de parents à leurs apprentis cyclistes recommencent à emplir la ruelle restée silencieuse durant l'hiver. Le chant du cardinal et les cris des bernaches s'ajoutent à cette mélodie printanière. Cette scène, je la décrivais quasi à l'identique il y a environ un an dans une chronique dédiée à la fabuleuse Caroline Dawson, qui nous a quittés le 19 mai 2024. Je prévoyais que cette période de l'année serait pour ceux qui l'aimaient un lancinant rappel de son départ. C'est précisément en observant la lumière du soleil sur les clochettes du Muguet que j'ai repensé à elle. En ce mois de mai 2025, il n'y a pas que le souvenir du décès de Caroline qui me fracasse le cœur. L'état du monde qui m'entoure me désole. Selon les agences des Nations Unies et les ONG présentes dans l'enclave, 1,5 million des 2,1 millions d'habitants de Gaza sont au stade 4 et 5 de l'échelle des crises alimentaires qui en compte 5, pouvait-on lire dans l'édition du 12 mai 2025 du journal Le Monde. Depuis le 2 mars et jusqu'à récemment, aucune aide humanitaire n'avait pu entrer en territoire palestinien, ce qui a privé la population de ressources vitales. Lundi, le 19 mai 2025, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a finalement autorisé l'entrée de quelques camions transportant de la nourriture pour bébés. C'est trop tard, et c'est surtout trop peu. On ne s'entend pas sur les mots à utiliser pour décrire ce qui se passe à Gaza. Génocide paraît trop fort à certains. Plus le temps passe, plus il me semble juste de ne pas l'écarter. Combien de Ben Cohen en colère faudra-t-il pour comprendre que vouloir protéger les Gazaouis de la violence et de la faim, ce n'est pas de l'antisémitisme? L'homme d'affaires américain juif, cofondateur de la glace Ben & Jerry's, a jugé crucial de perturber les délibérations du Congrès pour faire entendre sa voix. Le Congrès finance des bombes pour tuer des enfants à Gaza, a-t-il lancé avant d'être expulsé de la salle. Je doute que cette courageuse sortie ait une influence quelconque sur les politiques étrangères américaines. Comme je doute que la déclaration commune de Mark Carney, d'Emmanuel Macron et de Keir Starmer devant les actions scandaleuses du gouvernement israélien ait le moindre effet sur Netanyahou. Par ailleurs, le samedi 10 mai 2025 à Paris, on a autorisé le défilé d'un rassemblement d'un millier de néo-fascistes. On a pu voir des gestes et des symboles qui faisaient directement référence au régime hitlérien. Toute la classe politique, même le Rassemblement national de Marine Le Pen, s'est inquiétée de voir une telle expression de haine s'exercer librement dans les rues de la ville Lumière. Il ne s'agit plus d'atteindre le point Godwin, c'est forcer un point de bascule grave. Serions-nous plongés dans le paradoxe de la tolérance du philosophe autrichien Karl Popper? Ici, lorsqu'un artiste québécois affiche sur sa page Facebook, en pleine journée mondiale contre l'homophobie, le drapeau de la fierté LGBTQ+, en affirmant être fier de qui il est, des dizaines de personnes trouvent pertinent d'écrire leur dégoût sur sa page en ajoutant qu'elles ne le suivront plus désormais. Comme si être homophobe était une posture morale qui non seulement se défend, mais qui mérite d'être vu et entendu de tous. Permettez-moi de citer ici, en anglais, des mots sans détour de Morgan Freeman. « I hate the word homophobia. It's not a phobia. You are not scared. You are an asshole. » Même si je reste convaincu qu'il est contre-productif d'insulter les gens qui ne pensent pas comme nous, vient un temps où je n'ai plus aucune compassion pour ceux qui nourrissent la haine librement. Encore une fois, Popper nous rappelle qu'arrive un moment où cela revient à tolérer l'intolérance, un paradoxe qui conduit inévitablement à la victoire de la haine. Je ne suis qu'une petite madame qui vit dans un vieux triplex de Montréal. J'ai quelques petits soucis quotidiens dont certains me réveillent la nuit. Vais-je avoir assez de sous pour réparer le plafond de la cuisine et la vieille céramique du corridor? Est-ce que la fracture de la cheville de ma cadette va guérir comme il faut, elle qui rentre dans un programme de danse intensif en septembre? Bref, de petits tracas ordinaires. Alors, pourquoi suis-je aussi inquiète en regardant mes plants de tomates se gorger de soleil? Tout simplement parce que je croyais candidement que notre monde devenait meilleur avec le temps, que les erreurs du passé ne seraient plus jamais commises, parce qu'on aurait appris, on aurait compris. Or, ce printemps, ce qui semble renaître à côté des pivoines, c'est notre incapacité à vivre ensemble, à gérer les conflits sans faire mourir de faim des enfants et à protéger nos ressources naturelles. Et au moment où tout me semble perdu ou déprimant, j'entends le rire d'un enfant qui cascade dans la ruelle. Je relève alors mes manches et je mesure ma chance d'avoir cette tribune pour vous rappeler, au nom de ces enfants, que nous avons le devoir de faire barrage à la haine. Nous avons l'obligation de nous indigner et de continuer de lutter contre l'intolérance, et ce, sous toutes ses formes. C'était « Faire barrage à la haine », un texte de Salomé Corbeau, paru le 21 mai 2025 dans Le Devoir.
Moins de femmes et beaucoup de harcèlement. Un texte de Louise Leduc, paru le 23 mai 2025 dans La Presse. Les femmes ne représentent plus que 14,45% des cols bleus à la ville de Montréal, alors qu'elles composaient 20% des effectifs en 2006. Le harcèlement psychologique toujours bien présent, le harcèlement sexuel encore fréquent et les vêtements souvent peu adaptés sont le lot des rares femmes en poste selon une étude. Dans le rapport, 10 ans plus tard, des progrès décevants, le Conseil des Montréalaises et Action Travail des femmes souligne certains efforts faits par la Ville de Montréal, notamment en matière d'accompagnement dans les plaintes. Malheureusement, force est de constater que ces avancées ont donné peu de résultats sur le plan de l'égalité en emploi pour les femmes col bleu, peut-on lire. À la demande des chercheuses, en 2023, 252 travailleuses ont accepté de remplir un questionnaire. Pas moins de 62% des répondantes ont dit avoir fait l'objet d'une blague déplacée, 27% d'un geste vulgaire, 15% de demandes à caractère sexuel répétées et 8% d'agressions sexuelles ou d'attouchements sur leur lieu de travail. Les répondantes ont été appelées à donner des exemples. L'une d'elles témoigne s'être fait lancer « Oh ma tabarnak, mon hostie, je vais te colisser un coup de pied dans le cul puis tu vas retourner dans ton pays. » « Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce gars-là » demande cet employé. Autre exemple de parole déplacée. « T'as un hostie de beau cul dans ton legging. » Moi, je suis supposé être comme « Ah, merci !» ironise cette femme. Une employée a raconté que ça a pris 15 ans avant qu'il mette dehors un contremaître. C'était un malade, là. Il envoyait chier tout le monde, il pitchait des affaires. Ils viennent de le mettre dehors parce qu'il est allé trop loin, mais il a fait des problèmes à tout le monde. Mais c'est un bon employé, il fait sa job. Donc, nous autres, toutes les femmes col bleu, on parle de lui. Puis vous le gardez parce que c'est un bon employé. C'est ça qu'on se fait dire, déplore-t-elle. Discussions à caractère sexuel. Les conversations à caractère sexuel sont fréquentes, dit une col bleue. Il raconte des histoires de prostituées. Je suis correcte s'il y a 3 ou 4 autres femmes, mais si je suis toute seule dans une pièce, ça va être des discussions sexuelles, des discussions qui me mettent mal à l'aise, dénigrantes. T'as juste le goût de t'en aller, confie-t-elle. Autre témoignage. J'ai un collègue qui commençait à me parler des positions sexuelles qu'il fait avec sa femme. Puis il était comme « T'as-tu déjà essayé ça? C'est too much, tu peux pas me parler de choses comme ça », dénonce cette femme. Des commentaires anodins peuvent donner lieu à des propos grossiers. Quand je dis « j'ai chaud », t'es pas supposé de me dire « enlève ton chandail, nous autres ça nous dérange pas ». Non. Je dis juste que j'ai chaud. On ne devrait pas dire des affaires de même en 2023, s'insurge une autre employée municipale. Le questionnaire a été envoyé à 958 femmes et 252 d'entre elles ont accepté de répondre aux nombreuses questions, indiquent les chercheuses. L'excellent taux de réponse des travailleuses témoigne de la volonté des femmes col bleu de faire entendre leur voix, souligne le rapport. Au sujet de la sous-représentation et de la baisse du nombre de femmes col bleu, les auteurs estiment qu'elle n'est pas une fatalité. Les travailleuses que nous avons rencontrées ont témoigné avec détermination de leur affection pour leur métier et de leur volonté de mener à terme leur projet professionnel. Cet avis démontre à quel point le sexisme affecte les travailleuses col bleu et a des conséquences directes sur leur quotidien et leur carrière, relève Nelly Denen, présidente du Conseil des Montréalaises. La sous-représentation des femmes parmi les cols bleus de la ville de Montréal et les défis auxquels elles font face sont indissociables d'une culture et d'une organisation du travail conçue par et pour les hommes, dit Katia Atif, directrice générale d'Action Travail des Femmes. Pour qu'il y ait un véritable changement, tant la Ville de Montréal que le syndicat des cols bleus regroupés de Montréal et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse doivent assumer leurs responsabilités, estime Katia Atif. La Ville de Montréal a répondu dans le même communiqué que les auteurs de l'étude. Nous remercions le Conseil des Montréalaises pour son travail rigoureux et son engagement dans la production de cet avis. La Ville de Montréal prend les constats très au sérieux. Nous poursuivrons nos efforts pour lutter contre le sexisme, a déclaré Gracia Kazuki Katawa, responsable des ressources humaines de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques au comité exécutif. Interpellé par la presse, le service média des cols bleus n'a pas offert de réaction. C'était « Moins de femmes et beaucoup de harcèlement », un texte de Louise Leduc paru le 23 mai 2025 dans La Presse.
Soigner au bout du monde, un texte de Marie-Ève Martel paru le 8 mai 2025 dans la Gazette des Femmes. En zone de guerre comme dans le Nord québécois, exercer la médecine dans des contextes difficiles signifie faire face à de nombreux défis, affronter la souffrance humaine. Rencontre avec deux femmes médecins qui ont choisi de lutter contre l'adversité plutôt que de s'y soumettre. Audrey McMahon, apprivoiser un quotidien hors normes. Audrey McMahon est médecin psychiatre, spécialisée en pédopsychiatrie transculturelle. Depuis sa tendre enfance, elle est attirée par la différence, les autres cultures et les langues étrangères. Rapidement, le désir de travailler à l'international auprès des enfants s'impose chez la jeune femme. Dès 2004, à l'aube de l'âge adulte, elle œuvre au Pérou avec des organisations non gouvernementales locales, un périple qui bouleverse la trajectoire de sa vie. C'était mon premier contact avec la pauvreté extrême, avec la réalité d'enfants qui vivent dans la rue, mais aussi avec la violence et les contextes sociopolitiques qui influencent leur santé. Les années suivantes, elle poursuit ses activités de touriste humanitaire, notamment en Inde, au Malawi et au Sri Lanka, avant de prendre le chemin de la médecine, puis de la pédopsychiatrie. Colombie, Sénégal, Haïti. Durant ses études, la docteure Audrey McMahon profite aussi de ses stages électifs pour pratiquer à l'étranger, confirmant sa vocation. En 2021, elle collabore avec Médecins sans frontières, ce qui l'amène dans plusieurs pays et zones de guerre, comme le Congo, l'Irak et la Cisjordanie, entre autres. Là-bas, Audrey McMahon rencontre des enfants de tous âges, des enfants touchés par des conflits armés et qui en vivent les contre-coups au quotidien. Que ce soit des populations déplacées par le conflit à l'intérieur du même pays ou réfugiés, ce sont des personnes qui ont tout perdu, qui ont dû quitter leur maison, qui ont perdu des membres de leur famille, énumère la pédopsychiatre. Elles vivent des situations et des deuils traumatiques. Nous avons discuté avec la pédopsychiatre quelques jours après qu'elle a été évacuée de la bande de Gaza, où elle se trouvait pour intervenir auprès d'enfants témoins des atrocités du conflit israélo-palestinien. La pédopsychiatrie en zone de conflit diffère grandement de l'image qu'on s'en fait au Québec. Ici, on pense à un enfant qui présente un trouble de santé mentale qui nécessite une thérapie avec ou sans médicaments, illustre Audrey McMahon. Avec Médecins sans frontières, j'accompagne des personnes qui ont une réaction normale face à un contexte anormal. Les enjeux culturels sont à considérer dans l'intervention. Ça prend une lunette différente. Mon objectif est de soutenir l'enfant et sa famille pour l'aider à survivre au jour le jour dans ces circonstances, poursuit la spécialiste. Même si elle fait face chaque jour à la souffrance, jamais Audrey McMahon n'a envisagé de faire autre chose de sa vie. J'ai l'impression d'avoir les deux pieds bien ancrés dans le monde. Il y a quelque chose à être témoin d'autant de résilience humaine qui devient une grande leçon d'humilité. Quand on est face à une situation aussi difficile, on revient à l'essence de ce qui est le plus important. Dans un monde où tout est polarisé, travailler en humanitaire nous rappelle ce qui nous relie en tant qu'être humain. C'est ce qui continue à me donner espoir malgré toute l'horreur qui m'entoure, confie-t-elle. Geneviève Auclair, la grande séduction nordique. Voilà plus de 17 ans que Geneviève Auclair partage son temps entre Montréal et le Nunavik, où elle pratique la médecine familiale et exerce depuis 2015 à titre de chef du département régional de médecine générale. Au moment de choisir son parcours professionnel, Geneviève Auclair a déjà une certitude. Elle souhaite pratiquer en milieu éloigné. « Alors, j'ai fait tous mes stages en région. Chibougamau, Sept-Îles, Gaspé, Blanc-Sablon. » Un de ces stages a lieu à Inukjuak, dans le nord du Québec. Voyageuse aguerrie, c'est à cet endroit que Geneviève Auclair s'est dite le plus dépaysée. Dans la toundra et le brouillard, on se sent bien petit comme humain. On est à la merci des éléments. Ça m'a apporté beaucoup d'humilité. C'est un long périple en avion. Quand on inclut le temps passé au sol, c'est environ 9 heures à partir de Montréal pour se rendre. Et qui dit voler vers le nord sait qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait des retards. Son lieu de stage lui fait découvrir une réalité bien différente. C'était dans une petite clinique, pas d'hôpital, pas de laboratoire, pas de radiographie, mais une équipe tricotée serrée, témoigne la médecin. J'avais beaucoup apprécié ce type de médecine différent du milieu urbain, où tout le monde, qu'on soit médecin, infirmière, sage-femme, interprète ou bien travailleur social ou communautaire, doit dépasser les lignes traditionnelles de son métier. Si un patient avait besoin d'une radiographie, il fallait le mettre dans un avion pour aller à l'hôpital dans le village voisin de Pouvirnitouk. Il faut bien y penser, car il n'y a qu'un vol par jour. En cas d'urgence, un avion doit être nullisé. Pour soutenir un patient, il faut faire avec les moyens du bord. On a déjà transféré une patiente vers l'aéroport dans la boîte d'un pick-up. Je tenais sa poche de soluté pendant que le vent me fouettait le visage et je me disais « On est au Québec et c'est comme ça qu'on transfère un malade. » Rassurez-vous, il y a désormais des ambulances à Inukjuak, où Geneviève Auclair est retournée pratiquer il y a plus de 5 ans, après une douzaine d'années de médecine à Puvirnituk. C'est le contact étroit avec les communautés inuites qui a séduit la professionnelle. Faire des visites à domicile et entrer chez des gens qui nous offraient de la nourriture traditionnelle et qui nous racontaient leurs souvenirs, pour moi, c'était un privilège d'être témoin de ça, relate la praticienne, qui tâche d'être respectueuse des traditions et des croyances de ses patients dans son approche. La langue demeure un enjeu, bien qu'elle maîtrise quelques mots. Après 20 ans, je me garde bien de dire que je comprends parfaitement la culture et la communauté, avance la médecin, qui travaille étroitement avec des interprètes. Comme elle peut passer quelques semaines sans voir ses enfants ni son conjoint, Geneviève Auclair fait le bilan chaque année sur son avenir au Nord. Pour l'instant, rien ne l'a fait changer d'idée. Je crois que mon travail au quotidien apporte encore une réelle contribution pour certains patients, réfléchit-elle. Si ça fonctionne pour moi sur le plan personnel et familial et que je peux faire bénéficier la communauté de mon expérience, ça fait pencher la balance. C'était « Soigner au bout du monde », un texte de Marie-Ève Martel, paru le 8 mai 2025 dans la Gazette des Femmes.
Émilie Monet, Okinum, une entrevue réalisée par la rédaction, paru le 1er juin 2025 dans le carnet thématique « Je lis autochtone ». Émilie est d'origine Anishinaabe et son père est français. Elle vit actuellement entre l'Outaouais et Tiotiake, Mouniang, Montréal. À la croisée du théâtre, de la performance et des arts médiatiques, le travail d'Émilie Monet est le plus souvent présenté sous forme de théâtre interdisciplinaire ou d'installation performative. Sa démarche artistique privilégie les processus créatifs collaboratifs et multilingues, où elle explore les thèmes de la mémoire, de l'histoire, de la transformation et de l'amour. En 2011, elle a fondé Onishka Productions afin de créer des ponts et de nourrir les relations entre les artistes et les communautés autochtones du monde entier. Émilie collabore souvent avec d'autres artistes autochtones pour porter leur vision sur scène, notamment en réalisant Ouvatini, la performance multimédia du dernier album d'Elisapi, et en réalisant une adaptation théâtrale du roman à succès Koukoum de Michel Jean. La version revue et augmentée d'Okinum a été publiée cet hiver aux éditions Les Herbes Rouges. En quoi varie-t-elle de la précédente? Okinum est le premier texte que j'ai écrit. Je l'ai tout de suite mis en scène et joué. Ensuite, j'ai été invitée à le présenter, puis à le traduire en anglais. Cela a été l'occasion de continuer à peaufiner un peu la structure et la dramaturgie. Il y avait une scène que je voulais ajouter, celle d'un rêve récurrent que j'ai fait 3 fois dans ma vie. Je voulais donc qu'il soit présent 3 fois dans le texte. La nouvelle version permet de l'avoir en français, en anglais et en Anishinaabemowin. J'ai ainsi pu le représenter en français à l'Espace Go en 2023. Cela a été l'occasion de traduire la version anglaise et d'intégrer les changements à la nouvelle version française. J'avais envie de laisser une trace de ce travail. Il y a également plus de textes de ma part qui abordent davantage le processus d'écriture. On a aussi inclus un article sur ma relation à l'apprentissage de l'Anishinaabemowin. Plusieurs voix sont entendues dans Okinum. La pièce devient un dialogue entre voix animales et voix humaines qui s'expriment en 3 langues différentes. Qu'avez-vous personnellement appris de ce dialogue que vous avez orchestré? Je pense que c'est, d'une façon plus profonde, mon lien avec le castor, Amik, en Anishinaabemowin. Je voulais déchiffrer ce rêve mystérieux. Le fait de l'avoir rêvé trois fois me faisait penser que c'était quelque chose d'important, qu'il fallait que j'y prête attention et que je déchiffre les paroles que le castor m'avait dites. C'est donc vraiment parti de cette quête afin d'approfondir mon rapport à Amic et à sa médecine. Pour moi, Amic, c'est comme mon parent. Je trouve que les liens entre le monde animal et le monde humain sont poreux. J'avais envie de l'exprimer dans ce spectacle. C'était aussi important pour moi de faire entendre la voix de Véronique Touski, artiste interdisciplinaire qui est décédée en 2023 et qui m'a enseigné l'Anishinaabemowin. Pour moi, c'est une image de toutes les heures que j'ai passées avec elle et de tout ce qu'elle m'a appris au fil des années, que ce soit sur le plan de la langue, de la sémantique ou des histoires. Elle est vraiment une personne importante dans mon parcours. Une amie aussi. Elle m'aide à déchiffrer les paroles du castor en fait. Vous portez le chapeau d'autrice et celui de metteuse en scène. Vous avez mis en scène Okinum, de même que l'adaptation du livre Kukum, qui a été joué sur scène l'automne dernier. Mettre en scène un roman semble être beaucoup de travail. Comment avez-vous vécu ce processus? Ça dépend des projets. Okinum était mon premier projet, une co-mise en scène. Il a été mon école pour apprendre à faire de la mise en scène, à jouer sur scène et à écrire. Pour mon plus récent projet, Kukum, c'était la première fois que je mettais en scène un texte qui n'était pas de moi. Je pense qu'il faut adapter le récit de façon à rendre service à l'histoire, puis aux personnages qui vont être sur scène. Pour Kukum, comme je ne suis pas Innu, c'était vraiment important pour moi de m'entourer de personnes Innu pour pouvoir bien livrer ce spectacle. Je pense qu'avant tout, faire de la mise en scène, c'est un travail d'équipe. C'est comme si c'était toi qui étais à l'arrière du canot. C'est toi qui dirige, qui guide, qui décide où l'on va. C'est comme ça que je le vois. L'important, c'est de prendre soin des relations, d'activer et de garder le feu sacré de la création chez tout le monde. C'était Émilie Monet, Okinum, une entrevue réalisée par la rédaction, parue le 1er juin 2025, dans le carnet thématique « Je lis autochtones ».